Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 15 mars 2024. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son proche allié, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison.
On va aller acheter gorgues pour fêter ça avec Sonko. On va tout jubiler, on va faire tout.
Reportage à suivre dans la partie magazine sur la liesse populaire consécutive à la libération des opposants sénégalais. La Somalie obtient 2 milliards de dollars d'annulation de dettes. Un nouveau drame de migrants en Méditerranée avec au moins 60 disparus au large des côtes libyennes. Le pont aérien entre Haïti et la République dominicaine, bientôt opérationnel selon l'ONU. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son second, Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, sont sortis de prison hier soir, 10 jours avant l'élection, provoquant la liesse de milliers de Dakarois descendus spontanément dans les rues de la capitale sénégalaise. Éric Manirakiza.
La libération de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars qu'il soutient, Bassirou Diomaye Faye, était attendu depuis l'adoption d'une loi d'amnistie par le Parlement le 6 mars, les autorités cherchant à apaiser les tensions après l'échec de leur tentative de reporter le scrutin de 10 mois. Ousmane Sonko a appelé ses partisans à soutenir Bassirou Diomaye Faye dans la course à la présidence, ce qui inquiète ses concurrents. Monsieur Sonko jouit d'un large soutien, notamment parmi les jeunes frustrés par les difficultés économiques et le manque d'emploi. Les membres du parti dissous de Sonko Pastef et d'autres partis ont formé une coalition et choisi M. Faye comme candidat en novembre après la disqualification de M. Sonko à la suite d'une condamnation pour diffamation qui, selon lui, était motivée par des considérations politiques. Ce que nient les autorités. Bassirou Diomaye Faye, qui était relativement peu connu et également en détention, est resté éligible parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement définitif pour les accusations retenues contre lui pour des faits de diffamation et d'outrage à la justice.
En Guinée, des heurts ont mis aux prises des manifestants et les forces de sécurité à Conakry jeudi soir après une coupure d'électricité qui a plongé dans le noir une très grande partie de la capitale. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants dans plusieurs quartiers. Deux enfants de 8 et 14 ans ont été tués mardi par balle à Kindia, à 130 km à l'est de Conakry, lors de manifestations contre les coupures répétées d'électricité. En Éthiopie, l'ancien président de la deuxième plus grande région du pays, accusé d'incitation à la violence, a été libéré hier jeudi. Ex-homme fort de la région Somalie, Abdi Ilé avait été limogé de son poste de président régional, puis arrêté après des affrontements dans la capitale régionale, Jijiga, et les villes environnantes qui avaient fait des dizaines de morts. La région Somalie a été le théâtre de violents affrontements intercommunautaires en 2017 et d'une reprise en main musclée par le pouvoir fédéral début août 2018. Addis Abeba a annoncé jeudi que les charges pesant contre Abdi Mohamed Omar, plus connu sous le nom d'Abdi Ali, avait été élevé dans l'intérêt de la population. En Somalie, des assaillants ont pris d'assaut hier un hôtel de la capitale Mogadiscio, proche du bureau du président. Après deux explosions, il n'a pas été possible de déterminer immédiatement s'il y avait des victimes. Des coups de feu ont suivi les explosions. Selon les résidents, l'hôtel SIL, qui est un endroit très prisé des membres du gouvernement et des parlementaires, le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque. Et la Somalie a conclu un accord avec des créanciers internationaux pour annuler 1,2 milliard de dollars de dette. Mogadiscio va aussi bénéficier de l'annulation de dettes bilatérales estimées à 815 millions de dollars, selon le Club de Paris qui regroupe ces pays créanciers. Mouhamadou Moufa.
L'accord annoncé mercredi fait suite à l'approbation par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en décembre d'un plan de réduction d'endettement de 4,5 milliards de dollars portant sur le service de sa dette. La réduction de la dette totale de 2 milliards de dollars représente 99% de la dette à l'égard du Club de Paris au 1er janvier 2023, précise le groupe informel de pays créanciers dans son communiqué. Les membres du Club de Paris participants représentaient les gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, du Pays-Bas et du Royaume-Uni et de la Russie, selon le communiqué. Le gouvernement somalien s'est engagé à utiliser les ressources budgétaires additionnelles dégagées par le traitement de la dette pour financer des dépenses prioritaires dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures de base. Environ 70% de la population somalienne vit avec moins de 1,90 dollars par jour, selon les chiffres de la Banque mondiale.
Un nouveau drame est survenu en Méditerranée avec au moins 60 migrants disparus en mer. Ils étaient partis des côtes libyennes, selon les témoignages de rescapés secourus par les navires humanitaires Océan Viking. Le point avec Dili Dico.
L'ONG SOS Méditerranée a indiqué hier jeudi des femmes et au moins un enfant sont parmi les victimes. Son navire, Ocean Viking, s'est ensuite dirigé vers un port italien avec 224 rescapés recueillis lors de 3 sauvetages successifs. Selon l'ONG, l'embarcation pneumatique, à bord de laquelle 25 personnes seulement ont pu être secourues mercredi, serait partie de Zawiya en Libye le 8 mars. Le moteur serait tombé en panne au bout de 3 jours, laissant les migrants à la dérive sans eau ni nourriture. L'Organisation internationale pour les migrations estime qu'une action urgente est nécessaire pour renforcer les patrouilles en mer et prévenir d'autres tragédies. SOS Méditerranée a secouru plus de 39 000 personnes en Méditerranée depuis 2016, principalement en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde. L'année dernière, 3105 migrants sont décédés ou ont été portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon les derniers chiffres de l'OIM.
Le contrat minier entre la RDC et la Chine a été révisé jeudi à Kinshasa avec la signature d'un nouvel avenant pour 17 ans et 7 milliards de dollars en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Avec l'accord révisé, le montant de financement des infrastructures passe de 3 à 7 milliards de dollars sur les 17 prochaines années, a assuré Alexis Djezaro, ministre congolais des infrastructures, co-signataire de l'avenant.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pont aérien annoncé mercredi entre Haïti et la République dominicaine pour notamment acheminer de l'aide humanitaire devrait être opérationnel aussi vite que possible. C'est ce qu'a indiqué l'ONU jeudi, le point avec John Lindon.
La connexion aérienne n'est pas encore opérationnelle. Les collègues travaillent pour s'assurer que ce soit opérationnel aussi vite que possible, a précisé le porte-parole de l'ONU. Cette liaison aérienne par hélicoptère entre Haïti et la République dominicaine doit permettre d'apporter des provisions aux populations, mais aussi de relocaliser en République dominicaine le personnel international de l'ONU non essentiel. Il s'agit aussi de faire venir du personnel spécialisé dans la gestion des crises et de l'aide humanitaire, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il a d'autre part répété l'inquiétude de l'ONU sur la situation humanitaire et le manque de financement pour aider la population. Le programme alimentaire mondial, qui a notamment un programme de distribution de repas chauds à Port-au-Prince, pourrait devoir fermer ce programme la semaine prochaine en l'absence de financements supplémentaires, a alerté Stéphane Dujarric. Les gangs, qui contrôlent la majeure partie de la capitale Port-au-Prince, ont lancé une campagne armée il y a près de 2 semaines afin de renverser le premier ministre Ariel Henry, plongeant le pays dans un conflit violent avec des risques de famine et de guerre civile.
Et des tirs ont été entendus jeudi à Port-au-Prince après 3 jours d'une accalmie relative au moment où Les tractations sur la création d'autorités de transition se poursuivent pour tenter de sortir le pays des Caraïbes de sa profonde crise politique et sécuritaire. Le chef des démocrates au Sénat américain a appelé jeudi à des élections en Israël, qualifiant le premier ministre Benjamin Netanyahou d'obstacle pour la paix, une nouvelle illustration du changement de ton de Washington sur la gestion de la guerre à Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas lui a nommé un de ses fidèles, l'économiste Mahmoud Mustafa, comme nouveau premier ministre au moment où l'autorité palestinienne affaiblie doit se placer dans la perspective de l'après-Gaza. Et puis les Russes ont commencé à voter pour une présidentielle devant reconduire Vladimir Poutine. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les principales usines de cacao de Côte d'Ivoire et du Ghana ont arrêté ou réduit leur transformation faute de moyens d'acheter des fèves, ont déclaré quatre sources. Cela signifie que les prix du chocolat vont probablement monter en flèche. En Côte d'Ivoire, Transcao, l'une des neuf principales usines du pays, affirme avoir cessé d'acheter des fèves en raison de leur prix et n'utiliser que ses stocks. La RDC et des investisseurs chinois ont signé jeudi un accord conclu en janvier qui révise certains termes de leur coentreprise de cuivre et de cobalt Sicomine, coentreprise afin d'apporter plus d'avantages au Congo, le plus grand producteur mondial de cobalt, a déclaré le ministre congolais des infrastructures Alexis Guissaro Mouvouni. La Chine investira jusqu'à 7 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure au Congo contre 3 milliards de dollars auparavant et versera aussi 1,2% de redevances par an au Congo. Pour terminer, une perturbation majeure de l'Internet a frappé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ce jeudi, indique l'observatoire Internet NetBlocks, faisant état des pannes de câbles sous-marins. Ces pannes ont été importantes en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée et au Niger. Vodacom fait également mention des problèmes de connectivité dus aux pannes de câbles sous-marins en Afrique du Sud.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Nous commençons par les nouvelles de la Basketball Africa League.
Oui, il y avait un seul match au programme à la Sandbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, où se jouent les rencontres de la conférence Kalahari. Les Marocains du Fus de Rabat et les Angolais du Petro de Luanda, déjà qualifiés, se sont disputés la première place qui reste jusqu'ici la propriété du Fus, malgré sa défaite 83-89 devant Petro de Luanda. Les deux équipes comptent deux victoires en trois matchs. Pas de match aujourd'hui, les rencontres de cette conférence Kalahari prennent fin dimanche avec le match Cape Town Tigers, Fus de Rabat. Mais bien avant, demain samedi, les Sud-Africains feront face aux Angolais du Petro pour espérer accrocher leur première victoire dans cette conférence Kalahari.
Football, le Qatar et le Maroc vont accueillir 5 mondiaux des moins de 17 ans chacun.
Le Qatar et le Maroc vont accueillir chacun 5 éditions consécutives, respectivement masculines et féminines, des mondiaux de football des moins de 17 ans entre 2025 et 2029. C'est la décision de la FIFA. L'instance avait déjà annoncé en décembre dernier que son tournoi jeune passerait d'un rythme biennal à un rythme annuel à partir de 2025, en même temps qu'il gonflera de 24 à 48 équipes chez les garçons et de 16 à 24 sélections chez les filles. Le Maroc sera l'un des hôtes de l'édition du centenaire du Mondial en 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal avec 3 matchs en Amérique latine. Le Mondial masculin passera de 32 à 48 équipes en 2026, édition accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, alors que le Mondial féminin est passé l'an dernier de 24 à 32 équipes. En revanche, l'instance n'a pas réussi à passer sa compétition reine à un rythme biennal.
Vinicius Junior dénonce des chants racistes à son encontre avant Atlético Inter.
La star du Real Madrid a dénoncé des chants racistes qui auraient été entonnés par des supporters de l'Atlético avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan en réclamant des sanctions de l'UEFA. J'espère que vous avez déjà pensé à leur punition, a lancé sur X l'attaquant brésilien en mentionnant des comptes officiels de la Ligue des Champions et de l'UEFA. Dans son message, il relève une vidéo où l'on entend des supporters de l'Atlético entonner ces chants racistes. C'est une triste réalité qui arrive même lors des matchs où je ne suis pas présent, a ajouté dans le même message Vinicius. victime d'actes ou d'insultes racistes à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après une première fausse alerte mercredi, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été libéré la nuit dernière, tout comme son candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye. Une libération accueillie comme une délivrance par leurs partisans. La correspondance à Dakar de Wani Johnson Sambou.
Coup de klaxon, chant, cri de joie, la libération d'Ousmane Sonko et son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, a été accueillie dans une grande liesse. Plusieurs milliers de Sénégalais ont manifesté dans toutes les villes du pays, comme ici à Mbaou, dans la banlieue de la capitale Dakar, pour célébrer ce moment.
C'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on l'attendait tous. Focus 24, Sonko Diomaye, tout simplement. On l'aime très fort et on le soutient tout avec le tout corps. La journée sera très exceptionnelle parce qu'on va aller acheter Gorgui pour fêter ça avec Sonko. On va tout jubiler, on va faire tout.
Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureuse. Dieu merci, ils sont enfin libres. Tout le monde est content ici. L'espoir n'en devient que plus grand. La libération des deux leaders de l'ex-parti PASTEF intervient en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain. Mais ici, leurs partisans ont dû changer leur plan alors qu'ils se préparaient à un meeting nocturne. À la place, ils ont improvisé un tour d'honneur dans les quartiers de leur localité. Papou Seyne Oufouy, responsable de la coalition Diomaye président.
C'est comme si en fait tout un pays a été libéré. Aujourd'hui, quand on apprend que le président Ousmane Sonko a été libéré, de même que Bassirou Diomaye Faye, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons tous et tout le monde est libéré. Déjà, on était satisfait de la victoire, mais actuellement, on est sûr à 90% qu'on va remporter l'élection présidentielle.
Une confiance qui en dit long sur le soulagement des partisans d'Ousmane Sonko de voir leur leader humer l'air de la liberté. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Nations Unies se disent profondément préoccupées par la dissolution d'organisations de la société civile au Mali et des restrictions croissantes aux droits humains et aux libertés fondamentales. Au moins 4 organisations ont été dissoutes, dont la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Mercredi, le gouvernement a annoncé la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, qu'elle accuse d'être responsable de violences dans le milieu scolaire. Yacouba Ouedraogo a joint à Bamako Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
Et on se rend compte qu'il y a une certaine tendance systémique à la dissolution des associations et des partis politiques. Donc c'est ce que nous avons dénoncé et c'est ce que nous avons déploré. Bon, nous pensons que c'est des pratiques qui sont généralement coutumières des régimes d'exception, des régimes de transition. Donc ça n'a pas commencé avec le régime du Mali. Et c'est pourquoi on dit toujours une période d'exception, on ne doit durer que le temps nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel.
Pour des organisations comme la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, CEMAS, ou encore le PSDA ou Kaoural Renouveau, ces organisations-là avaient entre-temps parlé de calendrier électoral. Est-ce qu'il faut faire un lien en cette dissolution et leur demande, bien sûr, d'élection au Mali?
Bon, nous ne rentrons pas dans des analyses subjectives, nous menons des combat de principe, si je peux m'exprimer ainsi, on s'est dit que dans un état de droit, dans une démocratie, la liberté d'association, la liberté de manifester, la liberté d'opinion et de presse doivent être respectées. Maintenant, nous ne préjugeons pas du fond des dossiers. Donc, ce sont des alertes que nous donnons. Nous estimons qu'il y a une tendance systémique à la dissolution. C'est ce que nous déplorons et c'est ce que nous dénonçons.
Quand on parle de restrictions aux libertés d'expression et individuelles, ou encore aux libertés d'association au Mali, à l'état actuel, sous les militaires au pouvoir, quel est le constat réel sur le terrain selon vous?
Nous menons des enquêtes, nous menons des investigations. Entre autres, parmi les témoignages, il y a des hommes de médias qui nous ont clairement dit qu'ils n'osent pas prendre la parole parce que tout simplement, ils ont peur, ils se sentent menacés, ils se sentent intimidés. C'est pareil pour certains leaders d'opinion. Donc sur la base de ces investigations, de ces documentations, nous pouvons dire clairement qu'il y a des menaces sérieuses sur les droits civiques et politiques, et sur la liberté d'expression, sur la liberté d'opinion, et récemment sur la liberté d'association.
Et qu'est-ce qu'une organisation comme la Commission nationale des droits de l'homme fait pour que ces libertés-là soient respectées?
La loi nous charge de veiller à ce que tous les droits fondamentaux puissent être respectés et que l'État puisse respecter ses engagements. Parce qu'il faut les rappeler, très souvent dans nos pays, les gens oublient les textes et la teneur des textes. Il se trouve que dans notre constitution, les droits fondamentaux sont consacrés dans tout un chapitre, en plus du préambule. Et au-delà de ça, c'est dans les serments du président de la République, l'engagement est pris de veiller au respect des libertés publiques et individuelles. Donc tout cela doit simplement être rappelé à l'État. C'est ça notre rôle. Et nous n'imposons pas quelque chose à l'État qui ne soit pas consigné dans un engagement, dans un instrument juridique, que ce soit un instrument juridique national ou international. C'est à ce niveau qu'il y a un besoin de compréhension, même de la part de certaines autorités.
Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale malienne des droits de l'homme.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La Guinée a une nouvelle équipe gouvernementale depuis mercredi. Le nouveau cabinet dirigé par le Premier ministre Amadou Ouriba comprend 29 ministres, dont 6 femmes. Ces nominations viennent mettre fin à 2 semaines d'attente. Voici des réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
Il y a d'abord ceux qui ont été reconduits, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les ministres de la Santé et des Affaires étrangères ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. 8 ministres ont passé par un jeu de chaises musicales et c'est donc sans grande surprise pour ces jeunes Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry.
À mon avis, c'est pratiquement la continuité puisque le noyau a été pratiquement reconduit. Et c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles figures qui sont arrivées, mais ce sont des figures qui n'étaient pas loin du système, qui n'étaient pas loin donc de ce régime.
Il n'y a pas eu un remaniement, mais c'est plutôt un réaménagement. Moi, je vois les choses comme ça, puisque ce sont des figures qu'on a déjà connues. Et après, ils ont fait des permutations d'un ministère à un autre. Et je pense que le résultat, ça ne va pas du tout changer.
D'autres Guinéens, à l'image d'Amadou Ouri, se disent ne pas être rassurés par la nouvelle équipe gouvernementale.
Je n'attends absolument rien de ce gouvernement. Baouri, c'est un bon cadre, mais restez-moi vous dire que je suis sûr et certain que Baouri n'aura pas la coup de France pour justement imposer son désiderata au sein du gouvernement. Donc vraiment, je n'ai pas du tout, je suis pessimiste.
De nouveaux visages ont fait leur apparition, ils forment plus de la moitié de l'équipe et sont issus de l'administration publique. Ce consultant en communication garde un peu d'espoir. Al-Sini Diallo.
Il faut reconnaître quand même, à un moment donné, les gens attendaient vraiment la liste de ces ministres et je pense que c'est un peu rassurant parce qu'on a vu de nouvelles têtes et ces ministres-là vont pouvoir s'attendre à une tâche lourde et moi j'espère avec leur expérience, ils vont pouvoir vraiment nous sortir de ce calvaire qu'on vit au quotidien.
Si on peut compter 2 journalistes au sein de ce gouvernement, au ministère de l'Information et au ministère de la Culture, les partis politiques ont été simplement ignorés. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
This is the voice of America. Washington, Baba Bozip. DC.
Alors que le président américain Joe Biden continue de soutenir la guerre d'Israël contre le Hamas, il semble prendre ses distances avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce désaccord apparent entre les deux dirigeants a alimenté les spéculations selon lesquelles les États-Unis pourraient restreindre leur aide militaire afin d'influencer la conduite d'Israël dans la bande de Gaza. Patty Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Dili Diko.
La campagne militaire israélienne à Gaza et ses effets sur les civils palestiniens ont fait l'objet d'une condamnation internationale. Écoutons Joseph Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère.
Le moyen naturel de fournir un soutien par le biais des routes est fermé, artificiellement fermé. La famine est utilisée comme arme de guerre.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est défiant.
None of these pressures will stop us.
Aucune de ces pressions ne nous arrêtera. C'est l'avenir même d'Israël, sa survie qui est en jeu.
Mais face au nombre croissant de victimes et à la famine qui frappe les habitants de Gaza, le plus fervent partisan d'Israël, le président Joe Biden, perd patience.
La défense d'Israël est toujours critique, donc je ne veux pas couper la livraison de toutes les armes pour qu'il n'ait pas de dôme de fer pour les protéger. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. On ne peut pas avoir 30 000 Palestiniens de plus morts à cause de la poursuite de ce conflit. Il y a d'autres façons de faire les choses.
Joe Biden manifeste de plus en plus sa frustration à l'égard de Netanyahou, notamment en ce qui concerne les politiques israéliennes qui ralentissent l'acheminement par voie terrestre de l'aide humanitaire indispensable. Les États-Unis se sont joints à d'autres pays pour larguer de l'aide par voie aérienne. Washington continue de soutenir Israël avec une aide militaire, mais si Benjamin Netanyahou va à l'encontre des pressions américaines et envahit Rafah, où plus d'un million de Palestiniens sont réfugiés, Joe Biden cessera-t-il d'envoyer des armes américaines à Israël ? Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
Nous y travaillons et je ne vais pas me tenir à cette tribune pour entretenir des hypothèses à ce sujet.
À l'approche des élections présidentielles américaines de novembre, Joe Biden veut éviter de donner aux républicains l'occasion de récupérer les votes pro-israéliens. Mais il doit également empêcher les démocrates progressistes, les jeunes électeurs et les Américains musulmans et arabes de l'abandonner en raison de son soutien à Israël. Alors que Joe Biden a soutenu Benjamin Netanyahou dans les premiers jours qui ont suivi les attaques du Hamas le 7 octobre, il prend désormais ses distances. Laura Blumenfeld est analyste spécialiste du Moyen-Orient à l'université Johns Hopkins.
Séparer Netanyahou et ce que Biden considère comme ses politiques de guerre toxiques pour l'État d'Israël afin qu'il puisse continuer à soutenir Israël, ce qui est vraiment son instinct politique sans sacrifier sa morale.
Récemment, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a été reçu par les législateurs démocrates, la vice-présidente Kamala Harris et d'autres hauts fonctionnaires américains, un signe du soutien de l'administration au cas où le populaire politicien centriste devient le prochain premier ministre d'Israël. Mais il reste à voir si le revirement de Joe Biden par rapport à Netanyahou suffira à apaiser les Américains en colère contre la politique du président à l'égard de la bande de Gaza.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Wake up, Ethiopia. Wake up, Tanzania. Africa, brothers and sisters.
blood in front of our eyes. We have to come together and pray. People of God, let's pray for peace in Africa. People are hungry.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mion à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Saillot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.